Histoire, actualité comme tous les vendredis dans la fabrique de l'histoire et comme tous les premiers vendredis du mois, actualité de la fiction d'histoire, film historique, roman sur fond d'histoire et bande dessinée historique. Une table ronde fiction donc de ce vendredi avec Séverine Yatin de la fabrique de l'histoire, avec Arlette Farge, directrice de recherche au CNRS, Fabrice Dalméda, professeur d'histoire à Paris 2 et Isabelle Hollandona, professeur d'histoire médiévale à Reims, Champagne-Ardenne. Et pour commencer cette table ronde fiction, nous parlerons d'un film, Les Suffragettes de Sarah Gavron avec Carey Mulligan, Helena Bonham Carter et Meryl Streep, qui nous racontent les combats d'une poignée de femmes qui réclamaient le droit de vote en Angleterre avant la Première Guerre mondiale. Un roman ensuite, Guerre et Térébintine de Stefan Hertmans chez Gallimard, troublant jeu de miroir entre un petit-fils et son grand-père, ancien combattant justement de cette grande guerre. Et enfin une bande dessinée, Maudit Allende chez Futuropolis de Jorge González et de Olivier Bras, qui croise les destins du président socialiste chilien et de celui qui l'a renversé, Augusto Pinochet.
Vous travaillez aussi à la blanchisserie Glass House ?
Je suis née dans ce quartier. J'ai commencé à mi-temps quand j'avais 7 ans. Puis je suis passée à plein temps à 12 ans.
Et le droit de vote, que signifierait-il pour vous, Madame Watts ?
Le droit de vote pour les femmes, le pouvoir est entre vos mains.
Tout le monde s'en tape, ma jolie.
Pas tout le monde, alors fermez votre clapet, d'accord?
Toute ma vie, j'ai été respectueuse. J'ai fait ce que les hommes m'ont dit de faire.
Tu es une femme mariée, tu es ma femme. C'est ça ton rôle, tu dois rester à ta place.
Eh bien, je n'accepte plus cette idée.
Ne sous-estimez jamais le pouvoir que nous, les femmes, avons.
Un extrait de la bande-annonce du film Les Suffragettes de Sarah Gavron avec Carey Mulligan, Helena Bonham Carter et Meryl Streep. Vous nous présentez, bonjour Séverine Yatin, ce film qui va ouvrir cette table ronde fiction de ce vendredi.
Alors, Meryl Streep qui joue une sorte, l'héroïne Emmeline Pankhurst, mais qu'on voit très peu, qui était donc à la tête de ce mouvement qui avait fondé l'Union sociale et politique féminine en Angleterre, qui réclame donc le droit de vote pour les femmes. En fait, l'héroïne, non, ce n'est pas cette Emmeline Pankhurst, mais c'est plutôt Maude, qui est donc ouvrière dans une blanchisserie qui est située dans un quartier très très populaire de Londres, qui travaille donc jusqu'à l'épuisement. Enfin, on voit aussi les conditions de travail de ces ouvrières de la blanchisserie. Les filles rentrent à 12 ans généralement pour travailler et puis elles s'arrêtent à 30 ans parce que elles meurent d'épuisement, de brûlures et de
maladies
diverses. De vapeurs suffocantes, de maladies. Et donc elle est mère de famille, elle est épouse et puis un jour, elle assiste à une des manifestations de ce mouvement des suffragettes et elle décide et on voit comment elle va s'engager de plus en plus dans ce mouvement. Mais Sarah Gavron ne présente pas que justement, elle présente un petit peu les différentes catégories qui sont présentes dans ce mouvement. Il y a à la fois donc Emmeline Pankhurst qui est une grande bourgeoise, il y a la petite bourgeoisie, il y a une intellectuelle qui joue donc une pharmacienne frustrée parce qu'elle n'a pas pu faire des études de médecine. Et toutefois, on comprend bien quand même que le joug subi par ces femmes, le joug patriarcal, est évidemment plus difficile à accepter par justement des ouvrières. Le plus lourd tribut, évidemment, est payé par les plus exploités. Alors, moi, je trouve que c'est la première fois qu'on fait un film sur ce sujet. Suffragette, c'est toujours péjoratif aujourd'hui comme féministe. Et je trouve que c'est assez bien, c'est intéressant. Il y a une remise en contexte historique. Les choses sont mises aussi à leur place. Ces femmes, oui, elles ont lutté pour le droit de vote et elles se font taper dessus quand elles manifestent. On les met de côté, effectivement. Et évidemment, on comprend que c'est très subversif à l'époque de réclamer et d'aller dans la rue, dans la place publique, réclamer un droit qu'elles n'ont pas parmi d'autres, puisqu'on comprend aussi qu'elles n'ont ni droits parentaux, ni droits financiers. Enfin bref, elles sont sous la domination masculine la plus totale.
On est donc avant la Première Guerre mondiale. Qu'en avez-vous pensé, Arlette Farge, de ce film Les Suffragettes ?
Mais au départ, j'étais un petit peu voilà, réticente, comme ça. D'une part, parce que j'étais, comme cela vient d'être dit, c'est-à-dire que ce mot suffragette est devenu effectivement péjoratif. Alors, les suffragettes, ce qui est bizarre, quoi, parce que même moi, féministe, je ne vois pas pourquoi j'avais dans la tête que c'était désuet de parler de suffragettes, etc. Donc, je suis arrivée en me disant, bon, voilà. Et en fait, moi, j'ai été très intéressée par le film, que j'ai trouvé vraiment, comment dire, ben voilà, oui, c'est un film historique qui raconte une histoire, c'est pas un film qui cherche à avoir des plans magnifiques, c'est pas un film qui va effectivement avoir une originalité absolue, c'est un film qui raconte une histoire, mais il ne raconte pas qu'une histoire, il raconte vraiment une condition féminine dont moi, et c'est ça qui m'a frappée, je n'avais pas imaginé la violence. J'imaginais très bien la violence dans les blanchisseries, enfin la violence du travail des prolétaires, excusez-moi du terme.
Elle s'adresse à... Il faut lire pour les auditeurs.
J'adorais. C'était bon, ce petit regard.
Mais après, j'ai été extraordinairement étonnée par la... Enfin, je ne savais pas, et je l'avoue, par cette violence énorme policière d'une... Et puis, du gouvernement, enfin, de quelque chose...
Le gouvernement de Lloyd George, à l'époque. Enfin, Lloyd George, des ministres, à l'époque.
Oui, c'est ça. Bon, qui est carrément sanglant, enfin, bon, et il faut un courage fou pour être cette jeune femme, Maude, qui va jouer sa vie là-dedans, son amour, son mari quand même, qui a l'air au début plutôt...
Son fils.
Voilà, et surtout son fils qu'elle va perdre. Bon, ce qui semble complètement inouï, et après, moi je dirais, mais j'étais super fière de me dire, ben voilà, je descends de ces femmes-là, parce que j'avais mal mesuré à quel point le combat avait été d'une violence forcenée et que ces femmes-là
avaient pris des risques. Des grands risques.
Vraiment des grands risques, parce que ne plus voir son fils, le voir partir dans les bras de crétins, de gens bourgeois, je sais pas quoi, qui vont l'adopter parce qu'elle est plus capable d'être la maman. Ah, ça, j'ai trouvé ça.
Et puis on voit qu'elles sont emprisonnées, elles font la grève de la faim, elles adoptent des stratégies plus radicales.
Il y a cette scène absolument terrible où, comme elle fait une grève de la faim, ils ont peur qu'il y ait une martyre. Et ils vont la gaver comme une oie.
Effectivement, ce sont des faits historiques autour de cette question-là. La seule chose qui n'est pas historique, c'est que le personnage de Maude Watts, donc ce personnage principal qui est joué par Carey Mulligan, n'existe pas en tant que tel, alors que Edith Ellin, donc la pharmacienne dont vous parliez tout à l'heure, Séverine, est un personnage historique, et évidemment qu'Emmeline Pankhurst était la leader justement de ces féministes suffragettes. Isabelle Le Landonna, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ?
Alors moi, j'ai un cheminement un peu inverse à celui d'Arlette, c'est-à-dire que j'y suis allée avec une forme d'enthousiasme, car le mot... contrairement à ce que ressent Arlette, ne me semblait pas. Enfin, je sais bien que dans le vocabulaire commun, c'est assez péjoratif, mais bon. Donc, j'y suis allée avec une forme d'enthousiasme. Et j'ai été un peu refroidie, je dois dire. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, il faut dire que c'est un joli film au sens plastique du terme. Il est très, très anglais, je trouve, dans sa facture. Voilà, donc très bien fait, très joliment fait. Et les actrices jouent très bien. Donc voilà, mais on n'est pas ici. Enfin, moi, je ne me sens pas capable de faire de la critique de cinéma stricto sensu.
Ça n'est pas le but, d'ailleurs.
Voilà. Et donc, mon point de vue a été de me dire qu'est-ce que cette fiction apporte
à la connaissance
de l'histoire pour un spectateur lambda. Et c'est là où j'ai été un tout petit peu gênée, parce que finalement, il y a deux moments clés dans le film. C'est les deux ou trois premières phrases et le générique de fin, où il y a les deux ou trois premières phrases posent l'infériorité physique, psychologique, de la femme dans laquelle on est encore au début du XXe siècle.
Je veux dire dans la société victorienne.
Dans la société victorienne et plus largement en Europe du reste. Et donc la position vis-à-vis des femmes, elle est fondée sur des choses par ailleurs médicales, etc., qui ont la vie longue. Hein. Et c'est rappelé, c'est-à-dire que il y a l'idée d'une incapacité absolue qui est liée à ce qu'elles sont intrinsèquement, c'est-à-dire des sous-hommes en réalité. Bon. Et puis la liste du droit de vote à la fin. Et entre les deux, ce qui m'a le plus gênée, quand bien même il y a de jolies scènes, qu'il y a des choses tout à fait justes, pertinentes, c'est qu'en réalité, on a l'impression, dans ce film, que la question du droit de vote pour les femmes émerge dans un contexte exclusif de violence subie des femmes, de guerre des sexes, on pourrait dire, alors que quand même, enfin il m'a semblé, semblait, il me semble, que la question, elle est aussi éminemment politique et qu'elle aurait peut-être mérité d'être posée davantage en termes politiques, ce que fait le début du film et ce qu'on voit bien à la fin avec la liste des pays. Et donc, du coup, entre les deux, voilà, on a l'impression que Maud, l'héroïne, s'engage, et c'est le cas dans le film, hein, elle s'engage parce que elle a subi la violence de son patron Taylor dans la blanchisserie, la fille
violence d'une... y compris violence sexuelle.
Violence, bah évidemment, violence sexuelle, hein, viol, etc. Que son mari la réprimande, elle fait honte à son mari, elle est sortie de chez elle, et puis après on lui retire son enfant. Bon bref, donc tout ça est sans doute très très juste, mais enfin on donne, il y a une demi-scène avec Meryl Streep qui incarne Emmeline Pankhurst. Bon, il y a quand même tout un discours articulé depuis la fin du XVIIIe siècle de Condorcet et Olympe de Gouges et qui court tout au long du XIXe sur le droit politique.
Hubertine Auclert en France, voilà, en Séverine France, donc, ou d'autres.
Donc, il me semble que là où le film pêche un peu, c'est que justement, il articule pas suffisamment la dimension romanesque du film, voilà, l'histoire qu'on raconte et des scènes tout à fait bien tournées qui montrent effectivement la violence de la condition féminine.
Mais et de la condition ouvrière.
Et de la condition ouvrière, parce que c'est lié. Ce qui est bien aussi, je trouve, c'est qu'il y a des formes de nuances qui sont introduites. Par exemple, le flic, il n'est pas caricatural. On voit bien
le mari ne l'est pas non plus.
Le mari ne l'est pas non plus. On voit bien qu'il y a certaines ouvrières qui ne sont pas acquises à la cause, parce que ça, c'est très important aussi de montrer qu'il y avait des formes de discrimination sociale, qu'il y a des aristocrates et des bourgeoises qui portent le sujet et que des ouvrières ne sont pas forcément favorables. Mais moi, ce qui m'a gênée, c'est le fait de montrer finalement que la revendication du droit de vote donnerait l'illusion à ces femmes que ça va changer leurs conditions de vie. Et vu d'ici, si vous voulez, ça me pose quand
même. Alors, évidemment.
Ça fait partie d'une des choses qui vont quand même changer leurs conditions de vie. Enfin, oui. La question, quand même, de pouvoir peser dans le droit et faire les lois, donc c'est bien dit.
Mais juste un mot. Est-ce que tout n'est pas politique?
Si, bien sûr.
C'est une des questions d'ailleurs qui est posée. Si, est-ce que tout est politique?
Je pense que tout est politique.
Oui, mais moi aussi, j'en suis bien convaincue. Mais encore une fois, par rapport à un spectateur qui n'est pas très au fait de ces questions-là, il me semble que le film promeut cette idée que la revendication du droit de vote est en réalité née des violences, alors qu'à la fin du XVIIIe siècle, des gens comme Condorcet, tout ça...
Évidemment, comme dans tout bon tribunal, encore aujourd'hui, le procureur est un homme et il s'appelle Fabrice Dalmella.
Oui, c'est pas normal.
Tu es aussi caricatural, Emmanuel, que ce film. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une position qui m'est préattribuée. Moi, pourquoi je n'ai pas adoré ce film? D'abord, je m'y suis ennuyé. Les seules scènes qui sont réussies, pour moi, c'est les scènes d'attente. C'est-à-dire les scènes où on voit des gens attendre ce qui va se passer, où il se passe rien, et en fait ça correspond assez bien à ce que j'ai eu comme impression, comme manière de filmer. Bon, enfin passons. Non, le truc qui me gêne vraiment, et je suis un peu étonné que alors dans le contexte où on est, ça vous saute pas aux yeux, mais c'est une justification absolue de toute radicalisation. C'est-à-dire qu'en gros, à la même époque, il y a un type qui s'appelle Gandhi. Alors vous allez me dire, c'est un homme, c'est dégueulasse les hommes.
Mais non.
Gandhi fait un choix qui est celui de la désobéissance civile pacifique.
Ouais.
Pacifique.
Oui, parce que
il fait des rassemblements, il fait des manifestations pour lutter contre un système inégalitaire au moins aussi oppressant que celui qu'il y a contre les femmes, mais il le fait lui sans poser de bombe. Donc moi, ce qui me frappe dans ce film, est-ce que vous admirez, c'est la chose qui me gêne par rapport à la situation où nous sommes. Si vous admirez le combat des suffragettes, vous admirez la radicalité de leur combat.
Disons, le passage à la radicalité, on voit bien le passage.
Vous dites même, mais je le dirai, Cédric Gata, vous dites même que vous êtes leur descendante.
C'est moi qui l'ai dit.
Mais oui, arrêtez.
Moi, je le dis aussi.
Mais quand même, moi, ça me pose un problème. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on voit, et c'est peut-être là, alors, pour le coup, une subtilité de ce film, on voit comment il y a de la frustration, il y a de la violence subie, et donc il y a de l'enrôlement du militantisme, et petit à petit, un militantisme de plus en plus violent. Donc on pourrait le comparer, et c'est l'objet de nos discussions actuelles, sur ce qu'on appelle la radicalisation depuis 2004. Ben, c'est de ça dont on parle. Et là, on voit qu'elle décide de passer à l'acte, et qu'elle cherche quoi? Finalement, le martyr. Elle cherche à arriver à la et les hommes le leur refusent parce ça que les hommes sont pas humains, madame.
Mais non, c'est un moyen de radicalisation.
Sauf Fabrice, quand même, que le droit de vote est obtenu après la Première Guerre mondiale.
Tu pardonneras, le discours du film, c'est exactement ça. C'est la mort d'Emily Davidson. au Derby de 1913, les funérailles, etc. Et juste derrière, on vous enchaîne en disant, et top, on a gagné. Donc, non, les filles, allez-y. Mourez, sacrifiez.
Bon, alors,
moi, on martyr, et vous aurez le droit supplémentaire.
C'est vrai que la question
et c'est le même discours qui est porté aux autres minorités. Tu me laisseras finir.
Mais non, mais juste...
bien que tu sois un homme.
Non, mais justement, effectivement, ça m'a aussi frappé, évidemment, dans le contexte actuel. Je suis allé voir le film hier en salle, et effectivement, il y a cette dimension du martyr qui est présente, des attentats, évidemment, elle est présente, même si les femmes font bien attention à faire des attentats,
à ne pas tuer,
toute proportion gardée. Mais tout de même, effectivement, et puis de la grève de la faim. Alors moi, la grève de la faim m'a fait penser à autre chose. Un film qu'on a vu il y a quelques temps, à Hunger. Oui, effectivement, le film de Steve McQueen autour de la grève de la faim de Bobby Sands et de ses camarades pour l'IRA, justement, pendant le conflit avec la Grande-Bretagne. Et je me disais qu'il y avait peut-être, effectivement, dans ces grèves de la faim féminines de la fin et du début du 20e siècle, un lointain, donc une lointaine racine de ce qui s'est passé ensuite dans les années 70 et 80.
Cinématographiquement, on sent qu'il y a là, pour le coup, une école d'influence. Oui. Il y a une forme de jeu.
Alors, Arlette de Farge.
Alors, moi, j'ai plusieurs choses à dire. D'abord, est-ce que Fabrice, tu peux crier moins fort?
Je trouve qu'ils se sentent dans une position finalement un peu de faiblesse.
En fait, moi, je trouve que c'est très préoccupant ce que tu viens de dire. Bien sûr, moi aussi, je ne pouvais pas faire autrement que de remarquer qu'il y avait une violence, il y avait des bombes, il y avait de la radicalisation. Mais dis donc, qu'est-ce que... C'est quand même historien.
Ouais. Voilà.
C'est parce que tu es dans un contexte aujourd'hui. Tout d'un coup, tu colles l'autre contexte qui a eu lieu il y a
un siècle.
Ouais,
un siècle.
Merci.
Excuse-moi, de quand il date le film?
Mais de 2015. Finir. Mais il parle de 1912.
Toute histoire est contemporaine et que le fait d'en parler aujourd'hui.
C'est pas à moi qu'il faut dire que toute histoire est contemporaine.
Caloris n'est pas l'âge du pic.
Allez, Farge. Continuez.
Donc, je pense que cette façon de plaquer ce qui se passe en ce moment avec ces événements-là, dont il a été rappelé que justement on faisait attention de ne tuer personne, mais je trouve ça que c'est pas du tout digne d'un historien.
Peut-être pas honnête, mais on ne peut pas empêcher Arlette Farge et Cyril Niatta, on ne peut pas empêcher les spectateurs de l'avoir en tête quand ils vont voir ce film.
Ah oui, mais
bien sûr.
Pardon. Moi, j'étais toujours soupçonné de machisme, Emmanuel, et aujourd'hui, on est la preuve.
Le passage à la violence, alors pour le coup, dans les choses que j'ai, moi, bien ressenties, que je trouve assez bien faites dans le film, c'est comment on passe à la violence, parce que les journaux ne parlent pas de leurs actions, etc. etc.
Ça devient nécessaire.
Et je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Fabrice, et je partagerai plutôt le point de vue d'Arlette de ce point de vue-là, et ce n'est pas une question de solidarité féminine. Mmh. Alors, c'est peut-être aussi un peu le point de vue de la médiéviste, pardonne-moi. Passé le 15e siècle, je ne sais plus rien, donc du coup, j'ai tendance à ne pas écraser les chronologies comme tu le fais. Donc, dans son contexte, enfin, il ne faut quand même pas oublier, on est en 1912, depuis la Révolution française, en gros, il y a des revendications sur ces questions-là qui sont extrêmement fermement portées, il y a des textes, etc. Et ces femmes, à un moment, d'ailleurs, se posent la question, il y a celles qui sont d'accord, celles qui ne sont pas d'accord. Mmh. La pharmacienne pousse dans le sens de la radicalisation, parce qu'il y a un moment,
Une compagne, justement, de notre ouvrière, donc inventée pour les besoins du film, se retire, effectivement, de ce combat, une fois que ça va trop loin. Moi, ça m'a fait penser à un autre film qui vient de sortir, et qui, peut-être, est quand même beaucoup moins bon que celui-ci, tout de même. C'est Les Anarchistes, puisque passe à peu près à la même époque, et qu'il y a, effectivement, aussi cette question de, est-ce qu'on va infiltrer ces milieux-là, et comment la police va-t-elle infiltrer ces milieux-là? La réponse n'est pas donnée de la même manière dans les deux films, mais on est exactement dans la même période, une période d'extrême violence sociale, en France d'un côté et en Angleterre de l'autre, et effectivement il y a quelque chose de parallèle.
Je peux pas répondre.
Ah, si,
on m'attaque de tous les côtés, je peux jamais répondre.
Il crie comme un putois.
On se calme, Fabrice Amélard.
Non mais juste, on voit bien comment, à chaque fois que les femmes rentrent dans une stratégie de violence, c'est tellement subversif que ça gêne. Qu'il y a eu des manifestations ouvrières, politiques, tout au long du XXe siècle, ok, ça pose question, mais pas au-delà. Et là, les suffragettes, qui quand même, au bout de plus de 50 ans de combat, qui quand même se décident à un peu radicaliser leurs revendications en cassant des vitrines et en mettant des bombes dans des boîtes aux lettres, là, ça y est, c'est le terrorisme,
toute la splendeur. Je trouve que
le fait que le film est caricatural, maintenant, autour de ce plateau, la discussion le devient. Ce qui me frappe, pardonnez-moi, mais ce qui me frappe, c'est que justement, Emmanuel a parlé des anarchistes, il y a la grande rupture des années 1880-90, ouais. C'est la rupture entre les socialistes et les anarchistes, mmh. entre justement l'usage de la violence et l'usage de la violence aveugle, notamment, qui est théorisé par les anarchistes qui s'y mettent et qui est refusé par les socialistes et qui refuse d'autant plus même pour certains les manifestations violentes. Donc c'est tout un filon réformiste avec ses Tourati, avec même ses Jaurès. Et donc là, je trouve qu'il y a une manière de positionner la chose en faisant l'éloge de la violence qui est fortement discutable.
Bon. Arlette Farge et Isabelle Lelandenin pour conclure sur les suffragettes.
Moi, je trouve que Séverine a raison quand elle dit que effectivement, dès qu'il s'agit de violence féminine, ça devient... Bon, pour avoir travaillé sur la violence des femmes, écoute, Fabrice, il faut que tu te mettes dans la tête que les femmes sont violentes, ça te fait de la peine et tout, parce que tu aimes leur douceur et leur charme, mais il faut que tu te rendes à la raison et que tu as fait une grosse faute historiographique en nous parlant.
Et Isabelle Lelandenin, voilà, un dernier mot.
Je dirais exactement la même chose, à savoir qu'on est violente autant que les hommes. Et quand tu portes ce point de vue-là, en réalité, tu te fais le porte-parole du discours qui était déjà le discours du début du XXe siècle et qui dure encore. On doit être douce, mère, et non violente.
Même s'il le fallait, Isabelle, s'il te plaît.
Merci à tous les quatre donc pour cette première fiction de notre table ronde fiction du moment. Les suffragettes de Sarah Gavron qui est sortie en salle il y a maintenant une dizaine de jours avec Carey Mulligan, Hélène Bonham Carter et Meryl Streep.
France Culture. Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Moi, je l'ai dit.
9h28 dans La Fabrique de l'Histoire. Qu'est-ce qu'on discute autour de cette table ronde? Ça nous arrive rarement d'être aussi agités. Séverine Yatin, vous nous présentez la deuxième fiction de ce jour. Donc, un roman, Guerre et Térébenthine, de Stefan Hertmans, qui vient de paraître dans la collection Le Monde Entier, chez Gallimard, avec une excellente traduction d'Isabelle Rosselin, traduite du néerlandais.
Alors, oui, Stefan Hertmans est un écrivain belge. Et à partir des cahiers retrouvés et souvenirs encore vivants, il retrace le portrait de son grand-père, donc il saute une génération, et donc Urbain Martens, qui est né en 1891 et qui est mort en 1981, qui a grandi à Gand dans une famille modeste, voire très pauvre, dont le père gagnait sa vie donc en restaurant des peintures d'église. Alors lui, que va-t-il faire, ce grand-père? Il aimerait bien devenir peintre, mais il va d'abord travailler dans une fonderie, et puis ce projet est bouleversé par la guerre, bien sûr, comme beaucoup d'hommes de cette génération. Donc c'est un peu un parcours emblématique. Et donc il inscrit cette vie. Alors ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que on a vraiment le sentiment d'être un peu dans de la micro-histoire en toute pratique. C'est-à-dire on a cet itinéraire, ce personnage, cette petite vie minuscule, enfin d'un inconnu, et autour de ce personnage, Stefan Hertmans trace un contexte politique, social. Il nous parle beaucoup de peinture, et puis il y a également ces va-et-vient vient donc entre des lieux, des moments et des temporalités, et on n'est jamais perdu en fait dans ce va-et-vient, et c'est des évocations toujours très fines, très poétiques, même au niveau de l'écriture. Donc moi j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Bon, je citerai peut-être d'autres exemples de sa méthode.
Oui, avec des phrases assez fortes, même en traduction. Donc, je salue la traduction du néerlandais venant de Belgique, effectivement, d'Isabelle Rosselin. Mais une longue vie dont la plus grande partie avait été un prolongement, dit-on, à propos de cet Urbain Martin. Là, donc, un personnage qui, effectivement, a été tellement marqué par cette Première Guerre mondiale qu'au bout du compte, tout le reste de sa vie n'a été qu'un prolongement. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Fabrice Dalméda, de ce roman Guerre et Térébenthine?
C'est une histoire d'homme, j'ai adoré.
on ne va pas continuer.
Non, on ne continue pas, évidemment. Bon. Non, c'est un chef-d'œuvre, tout simplement. C'est un chef-d'œuvre, tout simplement, avec une richesse, une ampleur d'analyse, toutes les trois pages, il y a un changement d'atmosphère, un changement d'ambiance, une rêverie qui vous emporte, et il y a au fond trois parties dans ce livre. La première, c'est celle qui m'a le plus passionné, on rentre dedans parce que le style est tu l'as dit, est sobre, mais il fait passer vraiment une émotion incroyable. La première partie, il parle donc de cette enfance. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est sur la Grande Guerre, sur laquelle je reviendrai très vite. Et puis, il y a une troisième partie où on revient sur ce long après-guerre. Donc, c'est vraiment la partie familiale, moi, qui m'a le plus plu, avec justement ce milieu ouvrier, ce travail, avec une femme qui doit recomposer sa vie après la mort de son mari. Et puis, il y a évidemment l'art. L'art avec une technique qu'a utilisé Hertmans, qu'il emprunte, et d'ailleurs il fait une petite citation qui explique sa référence, qu'il emprunte à Sebald.
On pense beaucoup à Sebald.
On pense notamment à l'Austerlitz de Sebald. En tant que
personnel. Ne serait-ce que parce qu'il y a là aussi des documents qui accompagnent la lecture, des documents photographiques qui accompagnent la lecture du roman, comme dans l'Austerlitz de Sebald.
Exactement, mais c'est pas une répétition, j'allais dire, en termes de technique littéraire, puisqu'au fond, lui part du principe, c'est sa grande fiction, de l'écriture des cahiers du grand-père, qui raconterait tout dans les détails, ce qui permet de mettre même aussi un style à la Mauroy, le Mauroy des éparges, dans cette deuxième partie sur la Grande Guerre, qui est très beau, donc des passages où on est dans les tranchées, où on est avec ses hommes, où on côtoie la mort, on côtoie l'ennui aussi. Et puis, surgit à ce moment-là, au fond, une des thématiques sous-jacentes du livre qui, moi, m'a intéressé par rapport à la Belgique d'aujourd'hui, qui est la position du flamand. C'est-à-dire que tant qu'il est, au fond, dans sa famille, la question de son identité culturelle, elle est posée par l'art. Son père qui veut lui transmettre, avec si vous me permettez, juste un très beau passage. C'est son père qui veut lui expliquer comment il doit peindre. Et donc, il travaille souvent avec un morceau de fusain qu'il tient serré dans une pincette métallique. À l'autre extrémité de la pincette est enfoncée une minuscule gomme avec laquelle il dessine les parties plus claires en frottant les surfaces tracées. « Regarde, dit-il à son fils, je peux dessiner en effaçant. » Il y a énormément de passages comme ça, poétiques, où on a une petite notion. C'est vrai que la technique est là, mais là, tout d'un coup, comme c'est dans une église, ça prend un effet sacré. Je trouve ça extrêmement, extrêmement habile. Donc, le rapport aux Flamands et aux Wallons, on voit dans la Grande Guerre comment les officiers francophones humilient les soldats flamands. Et là, tout d'un coup, l'identité belge revient. Et alors qu'on avait, comment dirais-je, une espèce de fusion, tout d'un coup, on a une prise de distance, nous, qui avons l'habitude d'être toujours côté francophone, d'une certaine manière. Et ça nous permet peut-être de comprendre un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années en Belgique.
Isabelle Lelandonna.
Alors moi aussi,
à propos de Guerre et terre de Stefan Hertmans, dans la collection du monde entier chez Gallimard.
Donc moi aussi, j'ai énormément aimé ce livre, qui est un très beau livre, et à mon avis, assez inclassable dans la manière dont il est construit, puisque peut-être c'est ce qu'il faut dire à nos auditeurs, il mélange l'écriture de Hertmans, qui se sert des cahiers de son grand-père, et il met aussi là-dedans des images. Donc c'est un livre assez inclassable, à la fois document historique, puisqu'il y a des citations in extenso et assez longues des cahiers du grand-père, donc qui sont un document que le grand-père a rédigé peu de temps avant sa mort. C'est aussi un hommage familial, et puis c'est, Fabrice vient de le dire, quelque chose de très poétique. Et moi, ce qui m'a beaucoup... Alors l'hommage, enfin la référence à Sebald, elle est explicite, puisque c'est l'exergue de la troisième partie du livre, où d'ailleurs il a cette citation qui, me semble-t-il, mérite d'être lue, qui est de Sebald, mais qui dit bien le livre. « Jamais, disait-il, il n'aurait cru que les jours, le temps et la vie puissent durer si longtemps pour une personne que l'on a mise sur une voie de garage. » Et donc, ce que je trouve très beau dans ce livre, c'est cette idée qu'on exalte un personnage qui est quelqu'un de banal à certains égards, et qui a fait la guerre, dont l'existence a été brisée par la guerre d'abord, brisée par la perte d'un grand amour, et donc on lui fait, enfin il épouse la sœur de son grand amour, qui devient donc sa femme, une existence banale, une sorte d'anti-monument finalement un individu qui... Alors Fabrice a raison, moi, du point de vue de l'histoire de la Belgique, c'est aussi assez intéressant, parce que le livre en réalité est écrit en néerlandais par son auteur, mais en fait les cahiers du grand-père, si j'ai bien compris, sont rédigés en français.
Puisque et donc, ils sont en italique dans le livre, et voilà, ça note effectivement que...
Tous les passages qui sont parfois très très longs, du journal du grand-père en tant que document historique. Donc je trouve que l'intérêt aussi, au-delà de la beauté vraiment réelle du livre, pour nous, historiens, c'est la manière dont l'auteur, Stefan Hertmans, arrive à mêler finalement l'écriture, le travail d'écriture, d'écrivain, de romancier, et le document historique. publics, que ce soit les cahiers, que ce soit ces tableaux.
Ou des photos.
Ou des photos de lieux, des photos de pierres tombales, etc. De soldats.
Arlette Farge, à propos de Stéphane Hertmans, Guerre et Térébenthine chez Gallimard.
Oui, ben moi je suis, comme tout le monde, j'étais vraiment soulevée par la lecture de ce livre pour les tas de raisons qui ont déjà été dites ici, mais notamment par une structure inventive extraordinaire et aussi par un champ poétique qui ne nous quitte jamais, qu'il s'agisse d'un sujet ou d'un autre. Et je dirais même ce qui m'a le plus, peut-être, qui m'a le plus surpris. Alors qu'on a tous tant lu de livres sur la guerre de 1914 et tous de très beau livre sur la guerre de 1914. Lorsqu'on en arrive à la partie sur la guerre, il a une manière de la raconter qui est, comment dire, il faut bien le prendre ce que je vais dire, qui est d'une violence inouïe et d'une douceur et d'une transcendance incroyable. C'est peut-être ça qui m'a, je crois, le plus ému, c'est-à-dire que c'est d'une force absolument invraisemblable, parce que ces mots à lui vont au-delà de la description détaillée qui fait frémir. Elle est en même temps là, cette description détaillée qui fait frémir, et en même temps il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose qui vous soulève complètement et qui est absolument extraordinaire. Et en plus, bon, j'ai été très touchée aussi par ce lien ce lien grand-père petit-fils qui est absolument extraordinaire et qui passe aussi par la peinture, par les murs effacés, les empreintes, tout ce travail qu'il a fait, c'est extraordinaire pour un écrivain de pouvoir passer de la guerre, enfin des empreintes de l'art, des tableaux, la femme au miroir, etc.
Des galets peints,
et c'est quand même une performance extraordinaire. Par ailleurs, pour en revenir à un sujet qui m'est cher et qui m'a été, je le dis personnellement, j'ai pas l'habitude de dire des choses très personnelles, mais mon père a travaillé dans une fonderie. Et lorsque le passage que l'auteur consacre à Urbain, qui travaille dans la fonderie, je veux bien, si vous permettez, en lire juste quelques lignes. C'est vrai que c'est quelque chose de très très dur, surtout à cette époque-là. Et c'est lui, Urbain, qui doit repousser la cuve basculante, la maintenir droite. Cette cuve, elle est remplie de feu, enfin, de fonte,
liquide,
pardon,
la liquide
en feu. Et donc, il est obligé de repousser la cuve basculante et de la maintenir droite le temps qu'ils aillent chercher de la terre dans la cour. Bientôt, le flot incandescent déborde du creuset, qu'il essaie de toutes ses forces de garder en équilibre. On lui hurle que le creuset ne doit pas se renverser. Il sent la chaleur l'engloutir, l'aveugler, le brûler vif. Sa tête s'embrume et soudain, après ce qui ressemble au mugissement du vent à l'intérieur de ses oreilles, le silence est assourdissant. La coulée de feu jaillit de la cuve. Ses mains semblent avoir disparu. Le métal en fusion cherche à se frayer un chemin autour de ses sabots. Il les sent craquer sous la pression brûlante. Il pense au pied beau. Il ne peut plus bouger. Tout s'agite derrière lui sans qu'il ne s'aperçoive plus de rien. La chaleur l'enveloppe comme une mer. Elle le berce, l'endort. Les jurons et les hurlements s'atténuent.
C'est donc tiré de Stéphane Hertmans, Guerre et Térébenthine. Magnifique passage, effectivement, mais c'est difficile de le dire pour un tel roman, mais il n'y a que des magnifiques passages. C'est-à-dire qu'on est porté d'un moment, d'une page à l'autre, à lire ce roman, Isabelle Lenormand.
Oui, alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Arlette, sur le lien, le travail qu'a fait l'écrivain, qui est donc le petit-fils d'Urbain, hein, cette question de la filiation et de la mémoire et de la manière dont on tricote finalement, dont il tricote, Hermans, la mémoire de son grand-père, ça va aussi plus loin, puisque en réalité, au début du roman, il est aussi avec son fils qui l'emmène à Londres. Et donc, il y a toute cette mise en scène du lien d'un contemporain, notre contemporain avec son fils qui a 15 ans.
Ce qu'un père doit faire, les moments où un père doit être en relation avec son fils et aller boire avec lui, aller dans les musées avec lui, etc.
Voilà, c'est un très exactement. Beau passage, c'est un très, très beau passage. Donc, il l'emmène à Londres. Et voilà, et le gosse, il a 15 ans, donc il manipule son iPhone. Voilà. Et Et donc le père qui essaye de lui inculquer un peu de culture l'emmène à la National Gallery entre autres. Et il y a la scène sur la Vénus au miroir de Velázquez qu'on a vu récemment à Paris. Et donc il tricote cette idée du lien familial, lui avec son propre grand-père, on saute une génération, lui avec son propre fils, et tout ça se mêle, oui, dans une écriture qui est à la fois véritablement historique à certains égards et extrêmement poétique.
Il appelle le male bonding, je connaissais pas le terme, donc le lien qu'un père doit de temps à autre resserrer avec son fils de 15 ans pour surmonter tous les points litigieux de son éducation. Séverine Yatin, Fabrice Dalméda, à propos de Stefan Hertmans, Guerre et Terreur maintien.
Oui, il y a tout ce matériau qu'il utilise aussi, tout est trace en fait. C'est-à-dire que, alors vous parliez de ce galet, moi aussi ça m'a beaucoup marqué. Donc à partir d'un galet que son grand-père avait ramené, d'un des seuls voyages qu'il a effectué près de Rome à Rapallo, Hertmans nous parle alors de Nietzsche, d'Ezra Pound, de Yeats, de Kokoschka. Et puis il nous dit voilà, l'objet, c'est l'occasion d'aborder voilà une autre histoire. Et puis il y a plein de choses qui sont emmagasinées dans ces objets, et en fait les pierres parlent.
Oui, voilà. C'est ça. Rien ne ressurgit au fil du temps qui ne soit emmagasiné dans des objets muets, silencieux. C'est un magnifique plaidoyer justement pour le travail de l'historien sur tout ce qui n'est pas a priori une archive, mais qui le devient si on y porte un regard un peu sourcilleux, un peu attentif. Fabrice Dalméda à propos.
En vous écoutant, j'ai eu presque l'impression qu'il y avait derrière tout ça une espèce de théorie littéraire dans laquelle, au fond, Hertmans a l'idée que il y a une forme de creuset justement qui passe de l'horreur et qui permet de construire du beau. Il y a un passage moi qui m'a fait penser à ça. C'est page 121. Le personnage va visiter une usine qui fabrique de la gélatine et on voit les bacs. Et c'est absolument immonde. Il décrit les bruits. On imagine. Enfin, on sent l'odeur en lisant le livre en fait. Et tout ça à la fin va donner de la gélatine, cette si jolie gélatine qui va faire des bonbons. Et ça, je trouve que c'est à peu près ça l'essence du livre. Et c'est pareil. Le personnage est traumatisé par la Grande Guerre, mais derrière, en fait, il ne va avoir de cesse que de transmettre de l'esthétique et de transmettre quelque chose de beau et de doux.
J'ai eu l'impression d'être dans un roman, alors je ne sais pas si le terme est bon, mais un peu panthéiste, c'est-à-dire qu'effectivement, d'une certaine façon, la beauté du monde ressortit de toutes les pages de ce roman. Il y a une dimension, par exemple, sur les odeurs, formidable. On sent, vous le disiez.
Il y a l'horreur aussi.
Oui, bien sûr.
C'est cette espèce de jonction qu'il arrive à faire, sûr. Qui est extraordinaire.
Arlette Farge, j'ai un dernier mot sur ce.
Oui, non, mais justement, quand tu parles de genre littéraire, moi, à propos de nos débats, toujours fiction, histoire. Alors là, c'est extraordinaire parce que justement, il me semble que ce qu'il a composé, c'est une union grandiose, quoi. Ouais.
Mais ça te paraît de l'histoire, toi, parce que pour moi, c'est quand même la partie de la fiction. La fiction,
c'est intéressant pour l'historien.
C'est intéressant de voir comment il a d'un document historique travailler ça et que comment l'histoire est là absolument présente et qu'en même temps, elle n'est pas aussi, on va pas reprendre le mot caricatural parce qu'on l'a trop employé, mais c'est pas aussi systématique que dans les romans qui se servent absolument de l'histoire. C'était juste ça.
Et en particulier, le fil du temps, cette question du temps qui passe, etc.
Qui passe.
C'est une magnifique façon de raconter le temps qui passe. Ça s'appelle donc Guerre et Térébintine. C'est signé Stefan Hertmans dans la collection du monde entier chez Gallimard. Et je salue effectivement la traduction d'Isabelle Rosselin, qui est une très belle et très fluide traduction qui rend, je pense, je ne sais pas, je ne connais pas le néerlandais.
Il faut le dire, c'est très bon. Quoi. Voilà.
Oui. Mais le néerlandais, excusez-moi, c'est du hollandais.
C'est du flamand, j'imagine, mais je n'y connais pas suffisamment très flamand, mais on appelle ça du néerlandais, entre parenthèses Belgique. C'est comme ça que c'est traduit dans le roman.
Y practica.
Amour et fraternité, donc c'est Victor Jara qu'on découvre et qu'on retrouve au milieu de cet album, cette bande dessinée chez Futuropolis, signée Jorge González et Olivier Bras, qui s'intitule Maudit Allende, qui nous raconte effectivement le destin maintenant bien connu d'Allende, même si certaines parties de sa vie, de Salvador Allende, sont moins connues, en particulier les tout débuts de sa vocation d'homme politique, avant qu'il ne devienne donc le président chilien. Et qu'il ne meure, puisque c'est la dernière planche de cet album. Mais néanmoins, on y voit aussi le croisement des destinées, pourrait-on dire, puisqu'il y a presque autant de Pinochet que de Allende dans cette bande dessinée. Qui veut intervenir en premier sur cette bande dessinée, Séverine Yatar?
Donc alors, pas de la même manière que le roman. En tous les cas, c'est le départ, c'est un fils qui veut rechercher aussi ses racines, donc un franco-chilien exilé en Afrique du Sud, qui revient au Chili dans les années 2000 avec sa compagne pour justement faire un reportage. Une sorte d'enquête sur...
Oui, parce qu'il a été élevé
au moment du retour de Pinochet d'Angleterre, après qu'il ait, qu'il ait eu des problèmes de santé. Alors, moi, ce que j'ai... d'abord, j'ai trouvé... esthétiquement, c'est assez sublime. Magnifique. il mêle à la fois de la BD un peu classique avec des vignettes, des vignettes par contre qui sont proches de tableaux, quoi, de peintures. Il appose parfois il reconstitue comme des archives un petit peu, des petits écrits, des petites notes comme ça qui semblent avoir été prises au cours du temps. Et puis alors parfois on a le sentiment de limite voir du documentaire. Il y a d'ailleurs quelques photos, de vraies photos qui sont dans la BD, il reconstitue donc ces histoires. Certaines scènes sont on sent que c'est apposé strictement, historiquement, en tous les cas, reconstitué de manière très
certaines
très
d'ailleurs cadrée, sont des reprises de photographies classiques.
Tout à fait,
Mais là aussi, au fusain, avec là aussi une petite gomme pour pouvoir faire éclaircir le fusain. Isabelle Landonna.
Alors, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Je partage le point de vue de Séverine, qui visiblement n'est pas celui de Fabrice, qui a décidé d'être désagréable ce matin.
Le côté esthétique... On ne lui a pas posé la question.
Il a dodoliné du chef.
Pas d'agression à dominer.
Et donc, moi, je trouve les dessins vraiment très, très beaux. Je trouve que le dessinateur est extrêmement talentueux. Il y a notamment ces pages où il y a du noir ou presque. Enfin, c'est quasi de l'outre-noir de Soulages. Et ça donne une ambiance à cette bande dessinée qui est... ce roman graphique, qui est tout à fait particulier. Ce que j'ai trouvé très intéressant, là encore, pour ramener un peu les choses du point de vue qui est le nôtre, ou en tout cas celui dont je me sens autorisée de parler, c'est-à-dire celui d'historienne, c'est que le point de départ est un peu à l'inverse de ce qu'on pourrait attendre sur le Chili, étant entendu que finalement, le narrateur vient d'une famille qui était partie... du Chili en Afrique du Sud au moment où Allende pouvait arriver au pouvoir. Fabrice, et donc il y a ce point de vue là qui est porté, qui est assez équilibré, qui donne en parallèle la biographie d'Allende et la biographie de Pinochet. Alors, évidemment, ça va un peu contre l'idée au départ. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Où est-ce qu'on veut nous emmener? Et en réalité, l'idée de la BD, je crois, c'est le parcours de prise de conscience de quelqu'un qui, en 1978, regarde la Coupe du Monde de foot en Afrique du Sud, et donc à 7 ans, ou quelque chose comme ça. Enfin bref, il est né en 71.
Il est en Afrique du Sud, il regarde la Coupe du Monde qui se passe en Argentine.
Et où le père dit, ces maudits Argentins, ils vont bien finir par l'emporter. Et il a été élevé dans l'idée que Pinochet, c'était quelqu'un de bien. Donc, et lui-même, son parcours personnel le porte à faire des études pour finalement atterrir à Londres et s'occuper des mines. Enfin, Donc, il fait le trader de matières premières, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça.
Et donc, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, plutôt nuancé, même si, les gens de ma génération étaient élevés dans le culte d'Allende plutôt que dans celui de Pinochet.
Fabrice Almeida.
Oui, j'ai pas été hyper sensible au trait. Et c'est vrai que le livre, là, on va trouver que je suis un très mauvais historien, mais pour moi, il a un paradoxe. C'est-à-dire que l'opportunité qu'avait le personnage qui est installé en 1978 par ses parents en Afrique du Sud, qui doivent y exploiter du cuivre et qui eux-mêmes sont spécialisés dans le cuivre parce qu'il y en a au Chili et parce qu'il y a aussi des mines au Chili, je me disais que ça pouvait être l'opportunité aussi pour le dessinateur de montrer ce que c'est que l'Afrique du Sud à cette époque. C'est-à-dire quand même le royaume de l'apartheid, il faut quand même le dire. Mmh. C'est totalement absent du livre. Donc, je ne vais pas jouer les mauvais, les râleurs,
raison.
Puisqu'on me dit que je compare mal et que je rapproche
raison.
Des choses mal. Mais voilà, ça m'a un petit peu troublé. Alors, en revanche, ce qui est très passionnant, effectivement, dans le livre, Isabelle l'a bien dit, c'est cette question de la conscience historique. C'est-à-dire comment, à un moment donné, on vit dans un monde avec une vision et on passe de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il devient philo-aliendiste. Alors que, il faut quand même le dire, le modèle que éventuellement Allende avait pour le Chili, c'était Fidel Castro. Et économiquement, on voit où Fidel a conduit la Havane et on voit où Pinochet a conduit le Chili. Ce qui ne fait pas de moi un pinochettiste.
Oui, quand même. Arlette Farge. qui ravale sa salive avant de prendre sa parole.
Oui. Non, mais d'abord, je voudrais dire esthétiquement, moi, j'ai trouvé vraiment la bande dessinée extrêmement belle, jouant des ombres et de la lumière à bon escient, ou même de double page où il y a presque que de la couleur. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement beau. Je suis d'accord vraiment avec Fabrice pour cette histoire du début trop rapide. Ce garçon qui a ses parents pinochettistes, mm-hmm. on dit ça, Sébastien ouais. dit ça, ouais. et qui finalement se pose guère de questions et qui est dans un pays, l'Afrique du Sud, qui n'est pas rien. Et donc ça m'a un peu gênée. Par ailleurs, c'était un peu compliqué, moi je trouve, comme structure, parce que quelquefois, j'ose le dire, on se demande s'il glorifie pas vaguement Pinochet, mm-hmm. mais on sait bien qu'il...
Un peu quand même, à cause aussi de sa famille, bien sûr.
Et puis, ça s'appelle Maudit Allende, donc ça peut être très mal pris pour un... Je sais pas, moi je vois ça en librairie, je dis Maudit Allende, je sais pas trop...
Mais ça aurait pu être
on s'attend à Maudit Pinochet.
Ça aurait pu être Allende Maudit, ça aurait peut-être changé le sens.
Ça aurait changé le sens, t'as raison. Et alors, par ailleurs, ce que tu dis sur la fin et tout ça... Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Je comprends que tu le dises, mais je crois que c'est pas le lieu. Tu vois ce que je veux dire ?
C'est quand même. Moi, j'ai été élevé dans le culte d'Allende, comme beaucoup autour de cette table. Mais en réalité, ce type allait peut-être planter son pays.
Non, peut-être. Okay. Mais peut-être. Okay. Sauf qu'en l'occurrence, c'est suicide.
Non, mais on sait que vous êtes auteur d'un livre du chronique.
Non, mais c'est une vraie question. Le communisme des années 70, tu vas pas me dire que c'est exceptionnellement bénéfique.
Oui, mais enfin, l'autoritarisme des années 70, comme Pinochet, c'est pas mieux.
Je suis d'accord.
Juste Arlette Farge. Tous les Chiliens qui sont morts. Ça fait beaucoup. Et qui ont été lancés des avions, etc. etc.
Donc, d'autant qu'ils avaient été formés par nous, les militaires.
En plus. Je trouve que c'est très juste que ça s'arrête là, parce qu'alors après, tu te rends compte.
Il y a quand même le juge qui fait les enquêtes sur le.
Guzman. Le juge Guzman, effectivement, qui a été interrogé par les auteurs, visiblement, pour pouvoir servir de matière.
C'est pas une encyclopédie, ce truc.
Non, c'est pas une encyclopédie.
Isabelle Landelin, un dernier mot.
Militaire formé par nous, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ce livre restitue finalement le lien particulier qui s'est noué. Au moment de la dictature, enfin qui était préexistant, mais qui s'est alors pour le coup renforcé, et les gens de notre génération ont vu arriver les réfugiés.
Il y a d'ailleurs une femme avec un disque des Quilapayun.
Voilà, alors voilà, justement, j'allais finir là-dessus. J'allais dire, il n'y a pas assez de Quilapayun dans ce, parce que voilà, la chanson El Pueblo Unido
Ramasera Vencido,
on l'a tous écouté, quoi. Ouais. Voilà.
Alors donc ça s'appelle Maudit Allende, c'est chez Futuropolis, c'est signé pour le dessin de Jorge González et pour le texte de Olivier Brun. Je rappelle que nous avons parlé également de Stefan Hertmans, Guerre et Terre et Matine du monde entier chez Gallimard, et du film Les Suffragettes qu'on peut encore voir en salle de Sarah Gavron avec Carey Mulligan, Elena Bonham Carter et Meryl Streep. Je voulais annoncer un colloque, très beau colloque dont on n'a pas eu le temps de parler dans la semaine, et malheureusement parce que c'est un colloque important qui se tient donc encore aujourd'hui, un colloque international organisé par les Archives Nationales, le Musée National de l'Histoire de l'Immigration à Paris. encore aujourd'hui, la nationalité en guerre, des chercheurs internationaux qui viennent de partout pour pouvoir parler justement de ce que c'est qu'être en guerre et de user ou pas de sa nationalité. Et je note que sous la présidence d'Alexis Spire, on a une séquence tout à l'heure à 11h15, donc au musée de l'immigration, qui s'intitule « Perdre et recouvrir sa nationalité », avec en particulier les historiennes Claire Zalk et Annie Poinceau, ainsi que l'historien Jules Lepoutre autour de ces questions-là. C'est une question importante. Et cet après-midi, Patrick Veil interviendra sur la question de la nationalité des Juifs et beaucoup d'autres intervenants. Ouais, qu'il faut signaler, c'est un très beau colloque dont on n'a pas eu le temps de parler, mais on espère pouvoir en reparler bientôt. Donc, organisé, Musée national d'histoire de l'immigration et Archives nationales encore aujourd'hui. La semaine prochaine, la Fabrique de l'Histoire vous propose une semaine consacrée aux réformes religieuses. Nous parlerons mardi de Vatican II, mercredi des réformes dans l'Empire ottoman, en particulier au XIXe siècle. Et jeudi, nous évoquerons les questions des réformes religieuses dans le judaïsme médiéval. Et lundi, nous recevrons à la fois Christiane Clapiche-Dubert pour un livre qui vient de sortir sur le Bon Larron, mais également les auteurs de Jésus dans le Coran, donc Prieur et Mordillon. Qui sera projeté sur Arte la semaine prochaine. Il y a également un livre qui sort en même temps autour de ce thème, Jésus dans le Coran. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vanna Bolivier et Aurélie Marcet. Merci à vous, Séverine Attard, Isabelle Hollandena, Fabrice Dalméda et Arlette Farge. Théo Gomard était avec nous à la technique et Renaud Dalmar à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 1000 jours, la télécharger pendant un an après sa diffusion. Laissez vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore sur en nous suivant sur le réseau Twitter. N'hésitez pas, déjà nous avons quelques réactions aux propos en particulier de Fabrice Dalméda. Rassurez-moi, il le fait exprès, Dalméda, hein, parce que là c'est limite inquiétant, dit une auditrice qui vous a écouté pour la première partie de cette émission. Merci à tous et au mois prochain.